Bonjour à tout le monde. Dimanche dernier, j'étais à l'église à Vourles, qui transmet leur salutation à l'église de Sonnera. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ces moments ensemble. Merci pour ce temps à part. Merci pour ce privilège de pouvoir te parler et pour ce privilège de pouvoir t'écouter. Rends nos cœurs bien disposés, Seigneur, afin que nous puissions te parler et t'écouter devant ta sainte parole. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à trouver le psaume 102, 101, hein, je voulais vérifier. Le 101. Un petit psaume, mais qui est riche comme tous les psaumes. Le psaume 101. Psaume de David. Je chanterai la bonté et le droit. C'est toi, Éternel, que je célébrerai. Je serai attentif à la voix des hommes intègres. Quand viendras-tu vers moi? Je marcherai avec un cœur intègre au milieu des miens. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je déteste la conduite des pécheurs. Elle n'aura aucune prise sur moi. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. Celui qui dénigre en secret son prochain, je le réduirai au silence. Celui qui a le regard hautain et un cœur orgueilleux, je ne le supporterai pas. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils habitent près de moi. Celui qui marche dans la voie des hommes intègres sera à mon service. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne se tiendra pas devant moi. Chaque matin, je réduirai au silence tous les méchants du pays pour supprimer de la ville de l'Éternel tous ceux qui commettent l'injustice. Voilà, le psaume 101. On peut étudier ce psaume de plusieurs manières différentes. Si on veut, on peut regarder et étudier en suivant les parties du corps humain qui sont mentionnées. Il est question des pieds, du cœur, des yeux, des cordes vocales. C'est une façon de regarder ce psaume. Mais nous n'allons pas regarder ce psaume de cette manière-là. Il y a une autre façon de regarder ce psaume en étudiant les différents catégories de cœurs qui sont mentionnées. Il est question du cœur faux, du cœur arrogant, du cœur pervers, menteur, du cœur fidèle, d'un cœur intègre. Et on va revenir un peu au cœur dans quelques instants. Une autre façon de regarder ce psaume, c'est de méditer les paroles qui sont fortes, voire dures, de la part de David. David dit: je ne supporte pas la conduite des pécheurs. Je déteste la conduite des pécheurs. Je ne veux pas connaître le méchant. Il dit même: je supprimerai tous ceux qui commettent l'injustice. Je fermerai la bouche des méchants. Et ainsi de suite. Des paroles dures, hein. Deux remarques s'imposent. La première remarque, n'oublions pas que ce psaume a été écrit par le roi David, qui avait le droit, justement, de supprimer du pays ceux qui faisaient le mal. Ce n'est pas notre droit aujourd'hui. Nous n'avons pas le droit de supprimer les méchants. C'est lui qui faisait les lois et qui faisait en sorte que les lois étaient respectées dans son pays. Ce n'est pas notre cas. Mais une deuxième remarque, c'est que nous ne devons pas oublier qu'en tant que chrétiens, nous ne sommes pas toujours obligés d'être gentils et doux et de tout accepter. Parfois, le chrétien doit dire non, doit dire jamais dans la vie, doit dire non, en tant que chrétien, je n'accepte pas ce comportement ou cette attitude. Comment est-ce qu'on va regarder ce psaume? Eh bien, j'aimerais souligner quatre décisions prise par le roi David. Et quatre décisions que je vous encourage à prendre dans votre cœur aujourd'hui et surtout, on va dire, pendant ces quelques semaines d'été. La première décision qu'il a prise, je tiens à célébrer le Seigneur par des chants. Rien de compliqué. Chanter pour louer le Seigneur. C'est ce qu'il dit au verset 1. Je célébrerai le Seigneur par des chants. Je pense à un autre verset que vous connaissez peut-être dans le psaume 40. Il a mis un cantique nouveau dans mon cœur, un cantique nouveau dans ma bouche. Chanter le Seigneur. Est-ce que ça vous arrive de chanter le Seigneur? Pas que le dimanche matin, ou parfois le jeudi soir, quand on a un musicien ou une musicienne. Mais chanter le Seigneur, chanter des cantiques dans son cœur. Siffler des chants. Entonner des chants. Même si on chante comme une vieille casserole, ça n'a pas d'importance. Chanter le Seigneur parce qu'il veut nous entendre chanter. Chanter sa bonté. Chanter sa fidélité. Chanter son amour. Célébrer le Seigneur dans notre cœur. Tous les jours, ça devrait être une activité. Chanter le Seigneur. Se rappeler des cantiques que nous avons chantés le dimanche, ou si vous avez un livre de chants chez vous, de prendre le livre et de chanter dans votre cœur quelques cantiques. Il est écrit dans le livre des Chroniques que Asaph, un jeune musicien, a commencé à composer des chants. Il dit ceci, Asaph: chantez en l'honneur de l'Éternel, annoncez de jour en jour son salut. Une activité quotidienne de chanter la louange du Seigneur, d'annoncer le salut du Seigneur, de chanter l'amour du Seigneur, car sa bonté durera toujours. Au psaume 136, nous lisons cette phrase 26 fois, une fois par verset. Son amour ou sa bonté dure éternellement. Certains savent que pendant un temps, j'étais colocataire avec un réunionnais à Grenoble. Il s'appelait Petit Jean, parce qu'il s'appelait Jean, il était petit. Et sur mon dimanche matin, il se réveillait, et quand il partait, avant de partir au travail, pour l'aider à se mettre en état pour aller au travail, à 5h30 du matin, il chantait dans la chambre le vieux cantique « L'amour du Seigneur est la plus belle chose que j'ai trouvée dans ce monde. » C'est un beau cantique, c'est un vieux cantique, c'est un cantique biblique. Mais quand je me réveillais le matin avec mon frère qui chantait ce chant, il louait le Seigneur pour son amour. Et ce matin-là, tous les matins, j'avais un choix. Soit louer le Seigneur, soit étrangler mon colocataire. Je vous laisse deviner ce que je n'ai pas fait et ce que j'ai fait. Mais louer le Seigneur par le chant, parce que son amour est éternel. Il y a 10 ans aujourd'hui, le 20 juillet 2003, Alain Choiquier, évangéliste, prédicateur de l'Évangile, algérien converti à Christ, il vivait ses derniers jours. Et le 20 juillet, il a pu lire la parole de Dieu chez lui avant d'être emmené d'urgence à l'hôpital pour une très grave opération. Le jour même, il a lu le psaume 77 avec son épouse. Il a été emmené à l'hôpital, il a subi l'opération le lendemain, le 21. Non, aujourd'hui c'est le 21, hein? Donc c'était il y a 10 ans hier, le 20. Il y a 10 ans aujourd'hui, le 21 juillet, Alain était dans son lit, il s'est réveillé. Il était silencieux et sa femme a dit: « Qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Et Alain a dit: « Je chante intérieurement les merveilles de mon Dieu. » C'était parmi les dernières paroles qu'Alain Choiquier a prononcées. Le lendemain, il était intubé, il n'a plus parlé, et quelques jours plus tard, il est décédé le 8 août 2003. Même dans ses dernières pensées, ce frère que nous avons connu, que nous avons eu plusieurs fois à la maison, il voulait chanter les bontés, les merveilles du Seigneur. L'amour de Dieu est un amour parfait, fidèle et inconditionnel. Laissez-moi vous parler d'un peuple qui habite au Cameroun. C'est le peuple Hili. Je ne sais pas trop comment prononcer, mais je vais prononcer Hili. C'est un peuple au Cameroun et ils sont 29 000, je crois, personnes qui font partie de ce peuple. Et il y a quelques années, des missionnaires sont arrivés là-bas pour leur parler du Seigneur, pour traduire la Bible en langue chidiche. Et les chrétiens, en essayant de traduire la Bible, ils avaient un souci. Parce qu'ils voulaient traduire le mot « amour ». Dieu aime le monde de façon convenable, mais ils avaient du mal à traduire ce verbe. Alors, les missionnaires ont appris que chaque verbe en langue yiddish se termine soit avec un « i », un « a » ou un « u ». Et le mot pour « aimer », c'était le mot « dv », donc « dvi »,« dva » ou « dvu ». D'accord ? Donc, les missionnaires, ils ont réuni les chefs du village et ils ont dit, mais, les amis, est-ce que vous pouvez dvi votre femme ? Pour essayer de trouver, est-ce qu'il y a un équivalent ? Pardon. Un équivalent pour l'amour de Dieu. Donc, les chefs du village ont dit, ben, si je dvi ma femme, ça veut dire que je l'ai aimée dans le passé, mais que je ne l'aime plus aujourd'hui. Alors, les chrétiens ont dit, mais ce verbe-là, ce mot-là, ça ne convient pas pour parler de l'amour de Dieu. Parce qu'il nous aime hier, aujourd'hui et demain. Ensuite, ils ont dit, mais est-ce que vous pouvez DVA votre femme? Alors, les chefs du village ont dit, ah oui, nous pouvons DVA notre femme sans problème. Ça veut dire qu'on aime notre femme parce qu'elle est gentille, parce qu'elle nous fait la vaisselle, parce qu'elle nous fait le ménage et parce qu'elle nous donne des bébés. C'est facile de DVA notre femme comme ça. Et puis les missionnaires ont dit, ben non, ça ne correspond pas, ça ne convient pas à l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, Dieu ne nous aime pas à cause de ce que nous faisons, mais Dieu nous aime, point. Et puis ils ont dit, mais est-ce que vous pouvez DVU votre femme? Et les chefs du village ont dit, oh non, impossible. Impossible de DVU notre femme. Les missionnaires ont dit, mais pourquoi? Et ils ont dit, mais ça veut dire que je dois aimer ma femme, même si elle ne fait pas la vaisselle. Même si elle ne fait pas le ménage. Même si on n'a pas d'enfant. Et ça veut dire que je dois aimer ma femme, même si elle est infidèle et adultère. Jamais de la vie, j'aimerai ma femme comme ça. Et les missionnaires ont compris, mais c'est comme ça qu'on doit conjuguer le verbe aimer pour décrire l'amour de Dieu. Parce que Dieu ne nous aime pas à cause de ce que nous faisons ou grâce à qui nous sommes, mais Dieu nous aime même quand nous sommes infidèles, adultères, rebelles, désobéissants. L'amour de Dieu est un amour fidèle, inconditionnel. Et nous devons louer le Seigneur tous les jours pour la profondeur, la hauteur, la largeur, la longueur de son amour fidèle et inconditionnel. Deuxième décision prise par David, je tiens à marcher avec un cœur intègre. Un cœur intègre. David dit, je veux avancer dans l'intégrité. Il veut s'appliquer à marcher dans la droiture. Il veut agir sagement, en suivant les conseils et l'exemple d'hommes pieux, fidèles et obéissants. Vers la fin de la vie de Josué, Josué dit dans Josué 24, « Servez l'Éternel avec intégrité et fidélité. » Et David, des siècles plus tard, il dit, « Je veux servir le Seigneur avec fidélité et avec intégrité. » Il y a un autre verset que vous connaissez certainement qui dit dans les Proverbes, veille sur ton cœur avant toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Nous devons veiller, les amis, sur notre cœur, sur nos sentiments, sur nos attitudes, parce que notre cœur détermine notre comportement. Notre cœur détermine notre conduite. Et nous devons veiller sur notre cœur. Et un danger pour tout chrétien, c'est justement un cœur qui est enflé d'orgueil. Dans Proverbe 6, il y a une liste de plusieurs choses que Dieu déteste, que Dieu hait. Et il est écrit que Dieu déteste les yeux hautains et un cœur qui médite des projets injustes. Dieu déteste les yeux ou un cœur hautain, orgueilleux. D'ailleurs, dans Abdias, un petit prophète, verset 3, il est écrit « L'orgueil de ton cœur t'a égaré. » L'orgueil dans le cœur. C'est tellement facile d'avoir un cœur orgueilleux. Et nous devons prier, « Seigneur, aide-moi à avoir un cœur intègre, un cœur humble, un cœur sans réserve pour toi. » Si vous lisez les deux livres des rois et les deux livres des chroniques, vous allez voir qu'en parlant des rois d'Israël et de Juda, soit on lit « Celui-ci avait un cœur attaché à l'Éternel sans réserve » ou « Celui-ci avait un cœur qui n'était pas attaché à l'Éternel sans réserve. » Un cœur orgueilleux? Non. Un cœur humble? Oui. Un cœur attaché à l'Éternel sans réserve? Oui. Un cœur qui n'est pas attaché à l'Éternel sans réserve? Surtout pas. Veillons sur notre cœur afin qu'il soit attaché à l'Éternel sans réserve. Je crois que je vous ai déjà dit il y a quelque temps que une de mes filles, je ne vais pas la nommer, mais elle est ici présente ce matin. À Noël, il y a 2 ans, elle va me frapper tout à l'heure pour ça, mais bon, vous viendrez me voir à l'hôpital. Il y a 2 ans, à Noël, elle m'a offert une autobiographie qui s'appelle Open, O-P-O-N, E-N, Open. C'est l'autobiographie de André Agassi, tennisman, le dernier Américain, ben, il est moitié iranien, moitié américain. Le dernier américain à avoir remporté Roland Garros, si mes souvenirs sont bons. Et c'est une autobiographie, 700 pages. Et une chose qu'il dit dans cette autobiographie, il parle du sac de tennis. Vous savez, quand les tennismen et tenniswomen arrivent sur la cour, ils ont un gros sac avec plein de choses dedans. Et lui, il a dit que jamais il autorisait qui que ce soit à préparer son sac. Il voulait toujours préparer son sac lui-même. Et il a dit ceci. Le sac de tennis, c'est comme le cœur. Vous devez savoir en permanence ce qu'il y a dedans. Parce que pendant le match, s'il casse une raquette, il va au sac, il va mettre sa main dedans et sortir une raquette sans regarder. Parce qu'il sait ce qui est dans son sac. Mais nous devons savoir qu'est-ce qu'on met dans notre cœur. Qu'est-ce que vous mettez dans votre cœur? Est-ce que c'est un cœur intègre, un cœur fidèle envers le Seigneur? Il y a d'autres versets aussi qui parlent du cœur dans la parole de Dieu. Troisième décision prise par le roi David. Je tiens à veiller sur mes yeux. Le cœur et les yeux. Le Seigneur veut nous aider à savoir où regarder. Je m'explique. On peut toujours regarder en arrière, regarder nos bêtises, nos péchés, nos crimes. Et si on fait ça, on va se décourager, déprimer, parce qu'on ne voit que les choses négatives qui nous collent à la peau. On ne doit pas toujours regarder en arrière. On peut toujours regarder à côté. On regarde les frères et sœurs. C'est pas mauvais de regarder les frères et sœurs, mais il y a des dangers. Je peux regarder les frères et sœurs et je peux devenir jaloux. Ou je peux me croire supérieur et je vais les mépriser et je vais les regarder de haut. Mais si je regarde de côté comme ça, c'est pas la bonne façon de regarder mes frères et sœurs. Ou alors, je peux regarder mes soucis, mes problèmes, mes difficultés, un peu comme Pierre, lorsque Pierre marchait sur la mer, vous savez, tout allait bien, jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il y avait la tempête, qu'il y avait des vagues, qu'il y avait du vent. Et à ce moment-là, Pierre commence à couler. Où est-ce que nous mettons nos yeux? Qu'est-ce que nous décidons de regarder? Un verset que nous devons connaître presque par cœur est celui-ci, où le Seigneur dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Regardez, devant, en arrière, ne promène pas des regards inquiets. Qu'est-ce qui nous inquiète ce matin? Qu'est-ce qui nous inquiétera demain matin? À la rentrée, l'année prochaine. Où est-ce que nous regardons? Tu es ma gloire, dit le psalmiste, et tu relèves ma tête. Le Seigneur nous aide à savoir où regarder. Tout à l'heure, j'ai parlé de ce qui s'est passé il y a 10 ans, ces jours-ci. Voilà quelque chose qui s'est passé il y a 2 siècles. Le 13 juillet, Adoniram Judson est arrivé en Birmanie pour évangéliser. La Birmanie est un pays qui a une frontière commune avec le Bangladesh, l'Inde, la Chine, le Laos et la Thaïlande. Il arrive là-bas pour évangéliser. Et il est face à beaucoup de découragement, beaucoup de persécution, la maladie, la mort de sa petite fille de 2 ans. Et en plus, il est emprisonné. On croit qu'il est un espion anglais. Vous savez, les Anglais sont capables de tout. Mais être un espion, il y a 200 ans là-bas, ce n'était pas possible. Mais il passe 19 mois en prison, loin de sa femme, loin de sa famille. Qu'est-ce qu'il a fait en prison? Est-ce qu'il a regardé par terre? Est-ce qu'il a regardé ce qui, ou est-ce qu'il a imaginé ce qu'il aurait pu faire s'il était dehors? En prison, il regardait les prisonniers qui n'avaient pas le Christ. Et il a commencé à évangéliser. Il regardait le monde perdu. Il a évangélisé. Et pendant 19 mois, il y a eu 19 conversions. Une par mois en prison. Et puis il était libéré. Et il a pu commencer une nouvelle église là-bas dans ce pays où il y avait tant de besoins. Si vous voulez lire d'autres choses sur cet homme et sa vie remarquable, je vous encourage à lire le livre « Splendeur de Dieu ». Un gros livre, mais un livre fort intéressant. Et si vous voulez entendre un petit résumé, allez voir Brigitte, parce qu'elle a lu au moins 2 fois, je crois, et elle a passé à pas mal de gens. Parce que cet homme-là savait où il voulait regarder. Il ne voulait pas regarder les autres, ou envier les autres, ils voulaient regarder ceux qui étaient perdus et leur apporter la bonne nouvelle. 3e décision prise par le roi David. Et la dernière décision, 4e décision, je tiens à passer du temps avec d'autres chrétiens. Je tiens à passer du temps avec d'autres chrétiens. Il s'agit de la, j'ai marqué CF, mais communion fraternelle. Vivre la communion fraternelle. Jouir de la communion fraternelle. Il dit, je veux habiter avec des gens fidèles. Je veux partager des choses avec des gens fidèles dans mon pays. Et le chrétien, bien sûr, c'est quelqu'un qui devrait aussi être content de mettre en pratique la communion fraternelle. Dans un esprit fraternel, avec des repas fraternels, avec l'amour fraternel. Et en terminant notre courrier avec salutations, bises fraternelles et ainsi de suite. J'ai été interpellé l'autre jour en lisant dans le livre des Nombres où Moïse dit à un certain Obab, je ne connais pas beaucoup de Obab aujourd'hui, H-O-B-A-B, il dit, viens avec nous et nous te ferons du bien. Et je me suis dit, mais c'est ça le communion fraternelle. La vraie communion fraternelle. Viens avec nous, nous te ferons du bien. Mais ça veut dire aussi, tu nous feras du bien. C'est réciproque. On fait du bien, on nous fait du bien. La communion fraternelle. Et c'est ça qui est formidable dans une église. Parce que dans une église, c'est un vrai melting pot de nationalité, de personnalité, mais dans le Seigneur, nous sommes un. Alors, pour preuve, quelles sont les nationalités représentées parmi nous ce matin? On est 60 à peu près. Il y a des Français. Est-ce qu'il y a d'autres nationalités? Congolaise. Italienne. Oh, italienne. Est-ce qu'on accepte les Italiens dans cette église? On a un cœur ouvert. Est-ce qu'il y a d'autres nationalités? Algérienne. Ivoirienne. Centrafricaine. Oh là là là. Et il y a certainement d'autres aussi. Oui, il y a une fille franco-écossaise. et son père écossais, oui, bon. En tout cas, parfois, il y a plus de nationalités différentes. Je me souviens, il y a des années, dans l'ouest de la France, où on a commencé une nouvelle église, on était 18 au culte, un dimanche, 12 nationalités différentes. D'ailleurs, je crois qu'il y a même une Libanaise parmi nous, mais elle est trop timide, elle ne veut pas dire qu'elle vient de là-bas. Mais en tout cas, ah oui, bien sûr, grec, oh là là, quel melting pot. Mais c'est formidable, parce que quand on se salue, on ne pense pas à la nationalité, on pense, j'espère, aux liens qui nous unissent en Christ, parce que nous sommes un en Christ. La communion fraternelle. On partage des choses et on participe à des choses ensemble. Dans le dernier chapitre de l'épître de Paul aux Romains, Romains 16, versets 1 à 16, il y a une liste de personnes que Paul tient à saluer. Et dans l'église à Rome, à l'époque, on constate qu'il y a une variété de personnes, une variété de dons, une variété de ministères, une variété de besoins et une variété d'origines. Mais ils étaient dans la même église et ils étaient un en Jésus-Christ. On constate aussi que dans cette église à Rome, il y avait une variété d'activités et une variété et beaucoup d'affection. Dans les activités, beaucoup d'affection, même s'il y avait parfois pas mal d'affliction, des difficultés, parce que des gens souffraient pour leur foi. Mais en tant qu'Église, nous pouvons, et je dirais, nous devons prier les uns pour les autres, à cause de l'affection qui nous unit, à cause de l'amour fraternel qui nous unit, et nous pouvons et nous devons nous soutenir dans le bon combat de la foi. Chacun mène un combat et nous devons nous aimer les uns les autres et nous soutenir les uns les autres. Nous sommes heureux d'avoir des Italiens parmi nous et je vais citer un Italien du XVIe siècle qui s'appelait Benoît de Nursi. C'était un moine italien. On ne cite pas toujours des moines italiens lors de cultes ici, je pense. Mais ce moine est devenu célèbre parce qu'il a écrit un livre qui s'appelle « La règle ». Et dans ce livre, il y a une liste de règles pour la vie monastique. Et je vais vous lire une de ces règles qui correspond tout à fait à la vie dans une église évangélique comme la nôtre. Voilà ce qu'il écrit au VIe siècle. Les frères doivent faire preuve d'une grande patience les uns envers les autres, en s'acceptant mutuellement, malgré les faiblesses spirituelles ou physiques de leurs confrères. Que chacun cherche à obéir au Christ, tout en pensant au bien et aux besoins de ses frères en Christ. Que chacun s'efforce constamment d'aimer autrui et de tout faire pour la gloire du Christ. Intéressant. Christ est au centre, Christ est le chef, la tête, c'est pour sa gloire, mais il dit, comme Paul, nous devons nous aimer, nous accepter malgré nos faiblesses, malgré nos imperfections, et nous devons chercher à nous encourager les uns les autres. Romains 12, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Je termine. Cet été, les amis, essayons de reproduire dans notre propre vie les 4 décisions prises par le roi David. Célébrons le Seigneur par des chants, ensemble, en petits groupes ou quand on est seul. Marchons avec un cœur intègre. Ça, c'est difficile. C'est plus facile de chanter que d'avoir un cœur intègre. Mais prions que le Seigneur nous aide à veiller sur notre cœur et à veiller sur nos yeux. Vous savez, Job a fait un pacte avec l'Éternel. Il dit, j'ai fait un pacte avec l'Éternel pour ne jamais regarder une fille vierge. C'est-à-dire, pour ne jamais vouloir commettre l'adultère avec mes yeux. Nous devons faire un pacte avec nos yeux, qu'on soit homme ou femme, pour qu'on puisse savoir où regarder, où placer nos yeux. Et aussi, cherchons à passer du temps avec les frères et sœurs. En été, mais en dehors de l'été. Nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin de donner. Nous avons besoin de recevoir. Et c'est justement cela, la communion fraternelle. Je termine par la prière. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier car tu nous as placés ici ce matin pour entendre ta parole. Et Seigneur, tu vois le cœur de chacun. Tu vois le regard de chacun. Tu vois aussi que parfois nous voulons chanter, parfois nous n'avons pas envie de chanter. Seigneur, aide-nous, comme dit le psalmiste, à passer notre vie à dire et à chanter que tu es bon, que tu es grand, que tu es amour. Merci pour ton amour inconditionnel et parfait pour chacun d'entre nous. Merci aussi parce que les barrières de langue et de nationalité et d'origine ne devraient pas nous influencer. Aide-nous, Seigneur, à nous aimer les uns les autres, à nous accepter les uns les autres. Comme toi, tu nous aimes, comme toi, tu nous acceptes. Merci pour ta fidélité. Aide-nous à marcher dans la fidélité envers toi en ce jour et tous les jours, afin que Christ seul soit glorifié dans notre vie. Amen. Thank you.